Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
Je crois que c'est en train de changer et je crois qu'on a besoin aussi d'un peu de rôle modèle en fait. On a besoin de voir d'autres femmes qui sont pas forcément ces femmes warriors, voilà, qui reprennent forcément voilà les codes masculins. On a besoin aussi de voir des femmes comme nous qui essaient de faire de leur mieux, qui voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus là dans les nouvelles générations. En tout cas là, tous les projets qu'on voit, c'est quand même c'est 50-50.
L'économie réelle, il en est grandement question en ce moment et c'est le sujet de cet épisode. Il existe beaucoup de définitions de l'économie réelle, mais on pourrait dire qu'en fait c'est l'activité économique locale et concrète pour la société civile, les entreprises et les collectivités qui produisent ou consomment réellement des biens et services en dehors de la partie spéculative, c'est-à-dire en dehors de la finance et de la bourse, concrètement. Mon invité est engagé dans cette voie et c'est pour cela que j'ai eu envie de l'inviter, particulièrement en ce moment. Après une expérience au sein de Planète Finance, la fondation de Jacques Attali, désormais appelée Positive Planète, Sarah a accompagné le développement de la célèbre plateforme de financement participatif Ulule. On peut dire que la Tech for Good n'a pas de secret pour elle. Elle a récemment rejoint l'équipe de Marc Ménazé, serial entrepreneur et investisseur dans l'aventure Founders Future. Alors c'est quoi ? Et bien en fait, c'est un fonds d'investissement qui regroupe plus de 30 entrepreneurs pour financer des entreprises à mission, celles qui s'inscrivent dans une transition sociale et environnementale. Avec Sarah, on a parlé bien entendu d'entrepreneuriat, de financement participatif, mais pas que, de l'action de son fonds d'investissement qui colle parfaitement à ce fameux monde de demain dont tout le monde parle actuellement, de mesures d'impact positif, d'entrepreneuriat au féminin, de son rôle de maman conjuguée à sa carrière, et de la talentueuse Leïla Slimani. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Sarah Korn, copartner de Founders Future.
Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, à distance pour le coup, puisque nous sommes en confinement. Écoute, je vais passer à l'essentiel tout de suite et être assez direct, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
Bien sûr.
Autant perso que pro, enfin perso, t'es pas obligé de raconter des choses que t'as pas envie de raconter, mais voilà, une présentation toute simple.
Bien sûr. Merci beaucoup Estelle de m'inviter. Alors donc moi je suis donc Sarah Korn. J'ai rejoint Founders Future il y a quelques jours en plein confinement. Mmh. Moi j'ai toujours travaillé dans l'innovation sociale, le développement, avec une première expérience dans une ONG donc de Positive Planète qui a été fondée par Jacques Attali, que tu connais bien. Voilà, j'ai passé 8 ans. Ça a été une expérience formidable. J'ai beaucoup voyagé et travaillé sur des programmes notamment pour permettre l'accès au financement à des populations vulnérables. Donc ça a été une très belle expérience. Et puis très vite, j'ai voulu un peu changer et sortir du secteur associatif pour découvrir le monde de l'entrepreneuriat social. C'était un moment où en France, il y avait beaucoup de projets qui se développaient et beaucoup d'entrepreneurs qui se disaient finalement pour changer le monde, on peut aussi créer des entreprises et trouver des moyens et des modèles économiques plus durables. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et j'ai rejoint Ulule, la plateforme de financement participatif
qui est super bien faite et qui a beaucoup évolué, je trouve, positivement.
Exactement. Au départ, c'était vraiment une plateforme qui permettait notamment l'accès au financement à des projets plutôt culturels, artistiques. Et puis très très vite, notamment depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de projets d'entrepreneurs qui venaient se lancer sur la plateforme un peu pour tester leurs produits, leurs services, des projets qui étaient vraiment impact positif, d'entrepreneurs qui se disaient finalement dans mon quotidien, il y a des choses qui me manquent dans une consommation qui est plus responsable et comment moi, porteur de projet, je peux me lancer via du financement participatif. Donc ça, c'était vraiment une nouvelle tendance qu'on a vue se développer très très fortement là sur Ulule. Voilà.
Il y a beaucoup de concurrence quand même dans ce secteur, donc ils arrivent à se distinguer, ce qui est quand même... Parce qu'il y a pas mal de sites équivalents quand même, non ?
Exactement. Il y a eu une émergence incroyable là, depuis quelques années de sites concurrents, notamment sur des thématiques, donc ce qui était super pour le développement du secteur et puis pour la connaissance aussi de l'usage d'aller financer des projets. Après, très très compliqué pour des plateformes d'être rentables quand tu t'adresses à un secteur comme l'agriculture uniquement ou la culture, c'est des modèles qui marchent parce qu'il y a un très très gros volume de projets. Comme la commission, elle est très, très faible. En fait, il faut un très grand nombre de projets ou alors des financements très importants. Mais on est plutôt sur des petits financements pour ces projets. Voilà, les citoyens, ils ont envie de participer à hauteur raisonnable de 20, 30, 40, 50 euros de contribution. Donc, voilà. Donc, Ulule, c'est vraiment, en tout cas, différencié et devenu la plateforme leader sur tous les projets d'impact positif qui s'adressent aux citoyens.
Et tu y as passé combien de temps chez Ulule ?
J'ai passé 6 ans et je suis arrivée à un moment où c'était assez incroyable parce que le projet s'accélérait, la plateforme, l'usage commençait à devenir de plus en plus connu et donc j'ai vraiment vu l'accélération là du projet et avec cette transition aussi de tous ces citoyens, de toutes ces communautés, le grand public qui avait envie en fait d'agir concrètement et qui se disait finalement en changeant ma consommation, en soutenant des projets en direct, eh bien je peux avoir un impact concret sur voilà le changement d'échelle de ces projets et d'accompagner des projets qui vont vers une transition plus sociale, plus environnementale.
Et au niveau perso, enfin sauf si tu veux continuer un peu sur le
non, point,
mais, côté perso, j'ai cru entendre une petite voix derrière.
Ouais, moi je suis maman de 2 enfants, deux petits, un de 4 ans et une petite de 18 mois.
Ouais, ça fait du boulot.
Exactement, ce qui est incroyable, ce qui est la vie. Hein. Donc voilà, j'essaye de tout conjuguer en même temps.
Alors ça, franchement, bravo. Parce que je pense qu'il faut quand même le signifier vraiment. Moi, je suis toujours admirative des femmes qui arrivent à être entrepreneuses et maman en même temps. Quoi. Moi, c'est un truc qui me sidère.
Moi, je crois que ça aide aussi à quand tu gères plusieurs choses en même temps, plusieurs sujets, ça t'aide à prendre du recul un peu sur l'essentiel ça donne envie aussi de monter plein de projets. Moi je trouve ça assez enthousiasmant en fait. Alors bien sûr que là sur ces périodes de confinement, j'imagine que je suis pas la seule et c'est pas évident de tout concilier. Mais on y arrive et on fait au mieux surtout. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de pas trop se mettre la pression.
Oui, c'est ça. Déjà, moi, j'ai entendu parler de toi, parce qu'on peut parler d'elle, étant donné que c'est grâce à elle qu'on s'est rencontrés. C'est Valentine Baudouin, donc qui fait partie de l'équipe aussi de Founders. C'est elle qui nous a présenté. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de Founders Future ? Je pense que j'écorche un peu le nom, non ? C'est comme ça que ça s'appelle ?
Non, oui, Founders Future, okay. Exactement.
Quand elle m'a envoyé la présentation, ça m'a fait tilt, pour plein de raisons, parce que, comme tu le sais, mon podcast est axé sur l'impact positif, sous toutes ses formes. Moi, ça m'a plu. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé avec Valentine, qui m'a dit d'en parler avec toi, pour qu'on essaye de rentrer un peu dans le vif du sujet et que tu nous expliques, voilà, grosso modo, quelle est déjà qu'est-ce que c'est, ensuite quelle est sa mission, et puis l'équipe constituante, qui est une sacrée équipe.
Exactement. Alors moi, j'ai rencontré Marc, donc qui est le fondateur de Founders Future, Marc Ménazé, il y a quelques mois, c'était en novembre dernier, et puis après les choses sont allées très vite.
On peut peut-être rappeler que Marc, c'est un des cofondateurs de Nextedia, de Men Invest, de Épicerie, enfin il a fait plein de choses et on peut dire que c'est un jeune, mais investisseur confirmé.
Exactement, c'est un jeune entrepreneur déjà confirmé. Ouais. Je crois que c'est ce qui est vraiment sa force et ce qui donne beaucoup, beaucoup de légitimité à Founders Future, puisque d'investir dans des projets quand on a soi-même été entrepreneur, ouais. On a une meilleure vision et un rapport beaucoup plus facile avec les entrepreneurs qu'on accompagne. Donc ça, moi, c'est ce qui m'a plu dans le projet, c'est que c'est vraiment des entrepreneurs qui financent d'autres entrepreneurs. Ouais. Donc il n'y a pas cette position d'investisseur un peu traditionnel, de financier, ouais. Que moi j'avais un peu vu puisque chez Ulule on a fait une première levée de fonds. Donc on a eu ce rapport avec des investisseurs qui mettent de l'argent dans un projet, qui sont pas forcément, qui connaissent pas forcément ton métier et qui vont te challenger vraiment sur tes chiffres, ta rentabilité, voilà, et pas vraiment sur l'opérationnel. Donc donc ça c'est super. Donc moi j'ai rencontré Marc en novembre dernier, qui m'a un peu présenté Founder Future. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est alors Founder Future, ça a deux métiers. C'est d'abord un fonds d'investissement, donc qui permet d'investir en pré-amorçage, amorçage ou série A dans des entreprises. Donc c'est vraiment les tout premiers financements qui permettent aux entreprises de se développer, avec ce positionnement qui est de dire nous on veut être comme un business angel. Donc on veut vraiment être un investisseur qui accompagne et qui est vraiment aux côtés des entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier métier. Aujourd'hui, ça a permis d'investir dans 35 entreprises. Je donnerai quelques exemples après parce qu'il y a des
entreprises qui sont assez
connues. Et le deuxième métier, c'est le Startup Studio. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc, Marc, avec toute l'équipe de Founder Future, crée des entreprises aussi. Donc, quand il voit sur un secteur qui a un besoin, et ben, il va développer l'entreprise et il va chercher des associés.
Donc, c'est la vraie création pour le coup.
Exactement. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'ils ont fait avec Épicure notamment, qui sont ces compléments alimentaires qu'il a développé vraiment de A à Z. Et il est allé chercher deux associés entrepreneurs.
D'accord. Et dans ce cas-là, c'est 100% financé par Marc ou vous levez des fonds aussi, tout pareil?
Bah, c'est au départ financé par Founder Future, en tout cas toute la partie développement. Et après, l'idée, c'est de pouvoir aller chercher d'autres financements pour accélérer le développement quand il y a un besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment le métier de Founder Future. Et donc quand j'ai rencontré Marc, on s'est rencontré sur ces sujets d'impact positif, puisque lui il cherchait à travailler davantage sur ces sujets, avec l'idée, le projet de créer à terme un nouveau fonds d'investissement pour investir uniquement dans des entreprises qu'on appelle des entreprises à mission, donc qui ont vraiment au cœur de l'ADN, au cœur de leur business, l'idée de s'inscrire dans une transition sociale, environnementale. Voilà, et c'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire. Moi, j'apprends aussi, parce que je viens pas du tout du private equity, de l'investissement, mais le premier fonds Founder Future est réglementé, donc il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas faire. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir ce projet-là. Moi, c'est un.
C'est-à-dire quoi, tu dis, il y a des choses que vous pouvez pas.
Bah, le fonds Founder Future, il a été créé pour investir dans des entreprises de la tech, du digital. Aujourd'hui, des entreprises à impact n'ont pas forcément une composante tech très forte ou en tout cas pas assez présente pour que ça puisse être aujourd'hui financé par le premier fonds.
D'accord, ok. Donc c'est ça, une des composantes majeures pour que vous investissiez, c'est quand même qu'il y ait une part digitale ou une part technologique principale.
Exactement. Aujourd'hui c'est ça, et comme Marc c'est un entrepreneur, et il a envie d'investir sur d'autres choses, ou en tout cas il y a des sujets qui sont très très forts chez Founder Future, notamment le sujet de la transition alimentaire. Tu citais tout à l'heure. Tu citais tout à l'heure épicerie notamment. Ouais. Voilà, Marc, il est très très intéressé, toute l'équipe, sur justement le commerce de proximité. Comment est-ce qu'on on se reconcentre sur du local, relocaliser l'alimentaire, la distribution, etc. Ça, c'est des sujets très très importants et qui ont un impact positif énorme. Et donc, ce sera un des sujets notamment du nouveau fonds. Comment est-ce qu'on va vers une transition alimentaire plus durable, qui est un gros sujet. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller accompagner par du financement, par de l'accompagnement opérationnel, les grandes mutations de notre société.
Ok.
plus en détail, quelles sont les conditions, si tu veux déjà, pour que vous investissiez, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conditions très arrêtées? Est-ce qu'il y a comme une espèce de, tu vois, de shortlist, pas de shortlist, mais en fait de conditions très concrètes. Ce projet coche toutes les cases. Est-ce que vous avez des cases en fait? Est-ce que vous avez des, voilà, une sorte de, tu vois, de, comment dirais-je, de de conditions incompressibles, ouais, des critères et surtout, est-ce que, alors il y a deux questions dans ma question. Donc la première partie de la question, c'est quelles sont les conditions d'entrée, enfin pour que vous soyez investisseur. Et deuxième pan, pendant la vie de l'entreprise, est-ce qu'il y a des markups, c'est-à-dire est-ce que vous suivez, on va dire, l'ambition initiale de la structure qui est l'impact positif. Est-ce qu'ensuite vous avez une sorte de prise de température pour voir si l'entreprise est toujours regardante, est-ce qu'elle obéit toujours à sa mission première, tu vois, parce que j'entends parler de pas mal de, d'ailleurs Jacques Attali l'a fait, mais c'est une sorte de, ouais, de thermomètre en fait, où on dit bah ça c'est positif, ça c'est pas positif, là ça va, là ça va pas. Comment on s'assure en fait que la vie de l'entreprise à impact positif va le rester en fait, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Je me suis toujours posé cette question en fait.
Ouais, c'est une très bonne question. Alors pour te répondre déjà sur les critères. Alors ce qu'on va regarder, déjà on va regarder des sujets qu'on maîtrise. Donc ça c'est très très important et je crois que c'est vraiment la force de Founder Future. On investit uniquement sur des sujets, des secteurs, des problématiques qu'on connaît bien où on a une expertise. Donc voilà, il y a des sujets qui nous intéressent beaucoup. Je pense à des sujets notamment en ce moment, il y a beaucoup de sujets autour de la e-santé, des choses beaucoup plus compliquées en termes de biotech, etc. Ça, on sait pas faire typiquement. On aimerait bien. Il y a des choses qui nous intéressent intellectuellement, mais on sait pas faire, donc on n'y va pas. Mm-hmm. Ça, c'est le premier sujet. Après, on va regarder. Une des premières choses, c'est évidemment l'équipe de fondateurs, fondatrices, leur motivation, leur parcours, leur background, leur expertise, la connaissance du sujet, évidemment. Donc ça, c'est important. Un bon projet, c'est à 80% l'équipe qui la porte et qui la dirige. Donc surtout à ces moments-là d'investissement, quand on est vraiment au démarrage des projets. Et puis, tu posais la question de... comment est-ce qu'on les suit dans le temps et comment on s'assure que le projet va toujours dans le bon sens. Alors évidemment, on a des critères beaucoup plus quantifiables. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires, de la marge, etc. Donc ça c'est des critères beaucoup plus financiers, économiques. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner. Donc chaque participation, chaque entreprise dans laquelle on investit, il y a une personne de l'équipe qui la suit, une voire deux personnes, qui a une expertise. Tu parlais tout à l'heure de Valentine qui nous a mis en relation. Valentine, elle va suivre tous les sujets plutôt tech, puisqu'elle a travaillé a travaillé dans ce secteur-là. Elle a l'expertise, elle est capable de les aider, les challenger, les mettre en relation. Marc va suivre tout un tas de sujets autour du retail, typiquement. C'est un sujet qu'il maîtrise bien. Donc voilà, donc on les accompagne vraiment de façon opérationnelle. Ça nous permet, donc il y a des points très réguliers toutes les semaines, toutes les deux semaines, au moins tous les mois avec les équipes. Et puis on a créé un lieu qui est la Future House, qui existe, qui est dans Paris, où on invite les fondateurs des entreprises dans lesquelles on investit à venir à faire du coworking, à faire leurs réunions, et ça permet aussi de créer du lien. Je crois que c'est important de garder cette relation avec les entrepreneurs, avec les équipes, ce qui permet de les challenger, de prendre la température et de les suivre dans le temps. Donc ça, c'est l'accompagnement opérationnel, c'est vraiment la force de Founders Future. Et puis, tu parlais d'un sujet qui moi m'intéresse beaucoup, qui est la mesure de l'impact. Comment est-ce que aujourd'hui, c'est pas parce que une entreprise lance son projet et a envie de bien faire, qu'elle a pas des externalités négatives, comment est-ce qu'on le suit? Voilà, tu peux faire des produits sains, bio, etc. Si tu as un impact CO2 carbone hyper élevé, voilà, ça a moins de sens. En tout cas, il faut essayer de voir ça de façon plus holistique.
Ouais, ou même que, si tu veux, à l'intérieur même, parce que je me suis souvent posé cette question, c'est que tu as des entreprises dont la mission et la vision sont très louables et qui, à l'intérieur de l'entreprise même, n'ont pas des rites et rythmes ou des valeurs qui soient très raccord avec justement cette mission et cette vision, tu vois. C'est-à-dire
exactement.
Que...
Ouais.
Alors j'ai des exemples en tête, mais je les citerai pas. Mais si tu veux, beaucoup de gens s'achètent une image d'impact positif et à l'intérieur de l'entreprise, quand tu parles aux salariés, bon, bah c'est pas reluisant, tu vois ce que je viens en termes de valeurs humaines, etc. Donc c'est vrai que je crois qu'on va, enfin, si on regarde à la fois à l'intérieur de l'entreprise et le produit final, je pense que c'est pas mal aussi.
Tout à fait. Et c'est quelque chose qui est difficile à mesurer au départ, parce que moi, j'en ai vu pas mal des créateurs d'entreprises qui se lancent, qui lancent un produit, un service, un impact positif, ouais. Et puis qui sont pas forcément, qui n'ont jamais managé d'équipe, et qui pendant leur développement et qui connaissent une croissance très forte et qui savent pas forcément faire et qui font pas forcément bien. Et c'est très important cette dimension d'animation de l'équipe. De t'assurer du bien-être de ton équipe et ça participe à la croissance de son entreprise. Donc je crois que ça aussi ça s'accompagne et on doit pouvoir nous, tu vois, accompagner nos entrepreneurs sur tous ces sujets humains. Donc pour ce projet, le futur projet de fonds à impact, ce qu'on a envie de faire, c'est de s'équiper, d'avoir un outil qui permette justement de mesurer différents critères qu'on se donne en fonction du secteur, du profil de l'entreprise, et puis qu'on puisse les suivre. Et je crois que ce qui est important, et nous ce à quoi on croit, c'est qu'il faut pas être dogmatique sur ces sujets. On a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et l'impact, on peut toujours aussi progresser. Et donc là, on est en train de travailler pour avoir un outil qui s'appelle ZEI, qui est un super beau projet qui a été lancé l'année dernière, qui est une plateforme qui te permet de mesurer ton impact et surtout de te donner des objectifs pour progresser dans le temps et qui t'offre la possibilité de te propose des prestataires, fournisseurs pour améliorer notamment ton impact CO2, carbone, environnemental et pour progresser. Donc ça, je crois que c'est important aussi de s'outiller sur ces sujets-là. Et je crois qu'il faut aller au-delà des labels existants. En France, il existe pas mal de labels. On a vu notamment, si tu connais ce label américain B Corp, arrivé en France, voilà, labellisé pas mal d'entreprises. C'est super, mais c'est pas très inclusif. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être B Corp aujourd'hui. Ça nécessite, nous on l'était par exemple chez Ulule, mais quand t'es une petite entreprise de 40 salariés, c'est beaucoup plus facile d'être B Corp que quand t'es une grosse boîte et un corpo. Donc c'est bien, il en faut. Il faut que ces labels aussi puissent se tourner davantage vers tout type de structure. Mais il faut qu'il y ait aussi des outils comme ZEI qui soient beaucoup plus ouverts et qui parlent à tout le monde et qui puissent adresser ces sujets d'impact.
Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres, à savoir sur quelle base d'abord vous vous dites... parce qu'attends, on a parlé de Founder, mais il y a le projet ACT qui est inclus dans Founder. Mais est-ce que, en termes de chronologie, ACT est arrivé après Founder? Enfin, tu vois, en termes de comment vous voyez les choses en termes d'articulation?
Alors, on a lancé donc il y a 10 jours maintenant Founders Future ACT, qui est une initiative en fait assez contextuelle, puisque on s'est dit il y a cette crise sanitaire. Comment est-ce que nous, fonds d'investissement, on peut aussi agir? Il y a énormément de projets innovants qui émergent. Il y a un élan entrepreneurial très très fort là en France qu'on voit. Comment est-ce que nous on peut l'accompagner, l'accélérer? Et donc, on a lancé cette initiative pour permettre d'investir sur des petits tickets en préamorçage dans des entreprises qui peuvent faire deux choses, soit faire reculer la pandémie du Covid-19, soit améliorer le quotidien des soignants ou des confinés. Ça, c'est une initiative qui était déjà existante puisqu'on avait un programme qui s'appelle Founder Future Start, qui était un programme qui permet d'investir des petits tickets, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, donc allant de 0 à 80 000 euros dans des entreprises. Donc, on a utilisé ce programme-là et on l'a un peu détouré pour adresser les problématiques de la crise du Covid-19. Donc, on a débloqué une enveloppe d'1 million d'euros.
C'est ça.
Via Founder Future Act pour investir entre 0 et 75 000 euros en equity, donc au capital de petites entreprises qui se lancent, soit des nouvelles entreprises qui voient le jour dans ce contexte-là, soit des entreprises existantes qui cherchent à adapter leurs services, leur activité au mieux pendant cette crise.
Ah d'accord, donc ça peut être des filiales ou des produits spéciaux, on va dire Covid-19.
Exactement.
C'est-à-dire que ça peut être une entreprise existante qui développe quelque chose de spécifique pour la période.
Exactement. C'est le cas par exemple de Cibleur au départ, qui est une agence, qui est une entreprise qui existait déjà et qui a lancé une initiative la nationale dont on a entendu parler pas mal, qui s'appelle Sauve ton commerce, qui propose donc à des petits commerçants qui souffrent beaucoup là de cette crise de permettre à des clients comme toi et moi d'avoir des bons bonifiés. Donc tu peux là préacheter aujourd'hui un bon pour aider ton petit commerce de proximité, et quand il réouvrira, tu iras dans ton commerce avec ton bon et il sera bonifié. Donc si tu l'achètes 30 euros par exemple, tu auras 50 euros de bon d'achat, ce qui est super parce que ça permet à tous ces petits commerçants d'avoir de la trésorerie en ce moment pendant cette crise qui les fragilise. Donc ça, c'est super, c'est un projet existant de Cibleur et ils ont vraiment cherché.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
À être utile, leur activité existante, elle était un peu en arrêt, et ils se sont dit comment est-ce qu'avec nos compétences, notre expertise, on peut adresser là cette crise, et notamment notre cible que sont les petits commerçants.
Ouais. Et du coup, sur l'enveloppe du million, vous en êtes à peu près où là? Est-ce qu'il reste encore des sous ou vous êtes arrivé au bout?
Non, on a des premiers projets là qu'on va soutenir, et on a à peu près débloqué un petit peu moins d'un tiers de cette somme. Donc il reste encore
Donc on peut passer
reste encore
un
des financements.
Appel, alors.
Exactement. On attend encore des projets. Et, voilà, on a reçu un peu plus de 250 projets, ce qui est vraiment au-delà de nos espérances. Donc c'est formidable. Alors tous ne sont pas évidemment éligibles, mais voilà, un intérêt très fort, et on sent un besoin et de financement dans ces temps difficiles, hein, même si les banques essayent de faire leur travail, mais et d'accompagnement opérationnel. Je crois qu'il y a un vrai besoin là-dessus.
Bien sûr. Justement, sur le marché du financement, quel est ton point de vue au niveau des gens qui arrivent à se faire financer? Alors je vais m'expliquer, mais en fait, j'essaie de poser la question à des gens qui travaillent, on va dire, dans le monde du business au sens large. Mais est-ce que ce sont pas tout le temps les mêmes personnes qui ont accès au financement? Je suis un peu cash, hein, mais pour être issue d'une école de commerce, donc c'est pas, et je ne crache pas dans la soupe, loin de là. Mais j'essaie juste de savoir si aujourd'hui il n'y a pas un moyen, si tu veux, de rétablir un peu ce qu'était la méritocratie. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté un truc, et là, je te parle indépendamment de ton activité au sein du fonds d'investissement, mais c'est vraiment pour avoir une discussion autour de ça, parce que je me demande si on devrait pas ouvrir le champ à la diversité en termes de financement. C'est-à-dire que j'ai, pour moi-même, avoir fait des investissements à travers une structure personnelle, j'avais l'impression qu'on donnait sa chance tout le temps aux mêmes personnes. ou au même profil?
C'est une très très bonne question, et c'est une question que je me pose très régulièrement et que je me suis beaucoup posée chez Ulule, notamment alors chez Ulule on a quand même une grande diversité de projets et de profils de porteurs de projets, c'est ça qui est assez formidable sur ces plateformes de financement participatif. Après, ce serait de mentir que de te dire qu'il y a beaucoup de projets, notamment issus de la diversité ou de personnes qui sont sans formation ou de personnes qui sont dans des quartiers sensibles, etc. Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut parler d'inclusion numérique. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes qui ont accès au digital et qui surtout savent maîtriser tous ces outils. Je crois que c'est en train de changer. Moi, je suis plutôt une optimiste et je crois qu'on n'a jamais autant parlé d'inclusion numérique qu'aujourd'hui. Donc, c'est très important, mais le chemin est long. Pour te donner un exemple, sur Ulule, on a lancé, je ne sais pas si tu as suivi, mais un nouveau média qui s'appelle So Good avec So Press, et on cherchait à faire la promotion de beaux projets justement issus de la diversité et à sortir de ce profil en effet d'école de commerce et de jeunes formés, dont je fais partie aussi, hein, comme toi. Et...
Non, mais ce qu'on appelle l'homme blanc, enfin, tu vois, l'homme blanc au sens humain, blanc, quoi.
Exactement. J'ai totalement galéré à trouver 10 projets issus de la diversité. Donc, c'est une réalité, et tu as raison de le souligner. Je crois qu'il faut...
Non, mais je me permets de le souligner parce que effectivement, quand on a un outil comme vous avez entre les mains là, avec une équipe solide de gens expérimentés, je me dis que ça peut être bien de faire du lien avec ces problématiques-là, parce que au final, beaucoup de fonds se créent aujourd'hui, toujours finalement, sur les mêmes archétypes.
L'avantage de l'entrepreneuriat, et aujourd'hui notamment en France, je crois que il a jamais été autant possible aujourd'hui d'entreprendre en France. On a tous les outils. Il y a du financement, il y a des experts, il y a des programmes d'accompagnement. Je crois que tout le monde, en tout cas sur le papier, peut entreprendre quand tu as une idée. Et ça, c'est formidable. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat. Je crois que quand tu te concentres sur l'humain, sur les gens, ce qui est vraiment la culture de Founders Future, de se dire est-ce que c'est la bonne équipe, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils ont la motivation, est-ce qu'ils connaissent leur sujet, ça permet en tout cas d'être assez ouvert et inclusif. Typiquement, on regarde pas vraiment les écoles que font les uns les autres. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt la connaissance du sujet. En revanche, il y a pourquoi il n'y a pas assez de bons projets. Je pense qu'il y a vraiment ce frein d'inclusion numérique, des outils digitaux. Moi, j'adorerais qu'on ait davantage de projets issus des classes populaires, de publics plus fragilisés qui lancent des projets. Donc, je crois qu'il faut continuer d'œuvrer pour ça et d'encourager tous les programmes qui le font. Je pense notamment à un projet que tu connais bien de Fred Bardot, qui est Simplon, mais il faut davantage de projets comme ça qui travaillent vraiment sur la problématique, qui fassent de la formation, qui donnent les outils, qui outillent tout le monde.
Je suis bien d'accord. Quels seraient les points faibles au niveau concurrentiel? Parce que là, vous êtes au cœur d'une machine assez grande finalement, non? Parce que j'arrive même plus à chiffrer le nombre de fonds d'investissement qu'il existe en France. Ça, c'est une bonne question, tu vois. Je sais même pas combien il y a de fonds aujourd'hui.
Il y en a beaucoup. Beaucoup, très, très, à chaque fois avec des positionnements assez différents, des tailles de fonds très, très différents.
Alors, attends, avant que je te pose une autre question, parce qu'il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu vois? Tu vois des hommes et des femmes qui proposent des projets, ou c'est plutôt des hommes, ou plutôt à part égale? Qu'est-ce que tu constates jusqu'à présent?
Moi, je trouve qu'il y a une forte progression de binômes hommes-femmes, et ça, c'est super, parce que je crois quand même beaucoup, beaucoup à la mixité. Donc ça, je l'ai constaté sur Ulule, sur tous les projets entrepreneuriaux, il y a vraiment de plus en plus de femmes qui entreprennent. Je pense qu'il y a les femmes ont toujours beaucoup entrepris, après pas forcément avec les mêmes outils, et les femmes n'allaient ou ne vont pas forcément voir directement des fonds d'investissement. Elles sont, enfin il y a pas mal d'études hein, là-dessus, moins à l'aise le fait de pitcher devant un fonds, de parler du BP. Ah bah, elles sont plus conservatrices souvent, voilà.
J'en avais parlé avec Valentine de l'Astérie qui a créé Sista. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Exactement, ouais, très très beau. Belle initiative.
Ouais, et elle connaît bien le sujet en termes d'entrepreneuriat au féminin.
Je crois que c'est en train de changer et je crois qu'on a besoin aussi d'un peu de rôle modèle en fait. On a besoin de voir d'autres femmes qui sont pas forcément ces femmes warriors, voilà, qui reprennent forcément voilà les codes masculins. On a besoin aussi de voir des femmes comme nous qui essaient de faire de leur mieux, qui voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus là dans les nouvelles générations. En tout cas là, tous les projets qu'on voit, c'est quand même c'est 50-50.
Je récupère ma question précédente. Du coup, c'était en termes concurrentiels. Quels sont vos... J'ai compris que c'était bien entendu le cœur de la mission, c'est l'impact positif. Mais est-ce que tu vois des menaces ou des points faibles? Je suis désolée de faire une sorte de SWOT, mais comme ça, à brûle pour point, tu te dis, bon, attends, il faut qu'on soit vigilant là-dessus, il faut qu'on fasse gaffe là-dessus, il faut qu'on fasse... tu vois, pour essayer de savoir, en fonction de la période que l'on traverse aujourd'hui, qui est en train de... à mon avis, changer la donne de beaucoup de choses, comme ça, sans réfléchir beaucoup. Est-ce que tu vois des menaces potentiellement pour votre fonds, enfin pour votre entreprise? Tu serais regardante de quoi, en fait, plus particulièrement?
Tu veux dire en termes de concurrence ou plus largement?
Ouais, alors, en termes de concurrence, effectivement, parce que j'ai un peu le sentiment que tous les fonds vont commencer à faire ce que vous faites, d'une certaine manière, parce qu'ils seront obligés de le faire. Donc déjà, il y a ça, si tu veux. Et ensuite, il y a, voilà, d'un point de vue général, c'est qu'est-ce que, on va dire, quelle est la démarche idéale du fonds d'investissement à l'heure actuelle? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu prends un fonds il y a 5 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Bon, tu vois, comment on fait pour être vraiment un bon fonds d'investissement, un bon investisseur, un bon accompagnant? Parce que c'est ça aussi, si tu veux, c'est que maintenant les entrepreneurs, ils sont plus du tout, on va dire, ils ont une démarche tellement active qu'ils vont aller chercher de la smart money, c'est-à-dire des investisseurs qui sont capables d'être des bons investisseurs, pas que de l'argent.
Oui.
Tu vois ? Non, mais vu votre équipe, je suis sereine hein, pour vous, hein, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que je me demande si quand on a un fonds, voilà, comment il faut agir pour être à la page.
Pour te répondre déjà sur la concurrence, aujourd'hui, il existe assez peu de fonds d'investissement à impact. Il y a très, très peu d'acteurs. Moi, j'en connaissais un parce qu'ils étaient investisseurs du LUL, qui est Citizen Capital, que j'aime beaucoup, qui a été fondé par Laurence Ménieri. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Donc, c'est plutôt des fonds traditionnels qui cherchent à faire de l'impact. Donc, avec, si tu veux, une posture et une approche...
antérieure qui n'est pas celle-là, oui.
Pas forcément très compatible, en tout cas avec des projets qui nécessitent souvent de s'inscrire peut-être plus sur le long terme, qui ont besoin de financer de la R&D sur certains projets, etc. Donc difficile quand on est un gros fonds d'adapter un peu ces critères sur des sujets plus innovants. Bon, ça c'est un premier point. Et après. Ta question, je crois que aujourd'hui les limites hein, de ce métier, c'est de pas investir dans des entreprises qui et de pas regarder uniquement en termes de valorisation de l'entreprise. On a vu passer notamment dans la French Tech et dans tout ce qui a été pas mal critiqué un peu de la Startup Nation, beaucoup d'entreprises qui prenaient qui flambaient en termes de valo, etc. Et on perdait un peu pied. Et on se demander finalement aujourd'hui ces entreprises quelle est leur valeur réelle voilà donc
je crois que c'est mon fer de lance la rentabilité plutôt que la valorisation
exactement et puis l'impact réel donc moi je dirais que Je crois que ce qui est important, c'est de financer l'économie réelle déjà, d'être vraiment au plus près de ce qui est utile, nécessaire à la société. Je crois que cette crise, elle, en tout cas, elle nous permet de nous recentrer sur sur l'utile. Moi, je crois beaucoup à ça. Chez Founders Future, il y a toujours eu cette culture de, en tout cas, de ce que je comprends parce que je suis nouvelle, mais de financer l'économie réelle des acteurs qui contribue à développer des secteurs de l'économie réelle. Donc ça c'est vraiment important. Et puis d'accompagner en fait de façon opérationnelle, c'est ce que tu disais, d'être au plus proche des équipes et de pas être dans sa tour d'argent à faire des transferts de fonds. Donc je crois que c'est ça qui est important. Et puis de rester ouvert aussi. Je crois que il se passe tellement de choses en ce moment. Il y a tellement d'innovations. On est en train de vivre des mutations de société tellement énormes. On a eu évidemment l'arrivée des nouvelles technologies, le digital, mais qui a préfiguré beaucoup d'autres, grandes mutations. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de rester très, très à l'écoute du marché et d'être assez humble, en fait. Et que ce soit bien ancré dans toute l'approche et derrière un peu la stratégie d'investissement.
Excuse-moi, je reviens sur ce que tu me disais au tout début parce que c'est une question que je me pose là maintenant. Tu me disais, on n'investit pas dans des structures dont on ne comprend pas le métier, ce que je peux entendre, hein. Mais en même temps, vu que comme tu le dis, tout va tellement vite, je me demande si c'est pas judicieux quand on a un fonds. Et encore, je réfléchis avec toi. Hein, vraiment, c'est un truc qui me vient à l'esprit maintenant. Est-ce que c'est pas utile de se dire, attends, on va aller investir peut-être moins d'argent, peut-être de manière moins significative, mais dans une structure qui, elle, va nous permettre de nous former. Je m'explique. C'est-à-dire que tu me parlais de la biotech ou je sais pas moi, de tout ce qui va être technologie et médical, qui est peut-être pas votre core business, peut-être que ce genre d'entreprise, si elle rentre dans votre scope, peut jouer le rôle du veilleur sur les futures technologies dans lesquelles vous devez investir, non ?
Exactement. C'est vraiment c'est vraiment la philosophie de Marc quand il a lancé Founder Future Start, c'est de se dire finalement on prend des petits tickets, on prend le risque, il est limité même si ça reste de l'argent et mais en tout cas on se donne les moyens et la possibilité de d'investir pour voir et de se planter parce que je crois qu'il faut accepter aussi de se planter pour réussir. Donc c'est d'être super ouvert sur des business qu'on comprend peut-être pas forcément ou en tout cas on n'en comprend pas l'intégralité. Là, sur le Covid-19, c'est un bon sujet parce que, tu vois, là, on va certainement investir dans des sujets vraiment liés à la santé, l'e-santé, qu'on ne maîtrise pas forcément dans leur intégralité, mais on va maîtriser un pan du business. Qui va reposer, par exemple, si je prends l'exemple de Minute Pharma, qui est un projet qu'on va soutenir, qui est donc la livraison au dernier kilomètre de médicaments et de produits de santé via les pharmacies en local. Bon bah typiquement c'est pas un sujet qu'on a l'habitude de traiter. Pour autant, Founder Future connaît bien toutes les stratégies de distribution, la logique du dernier kilomètre. C'est des choses que connaît bien Marc dans le cadre de ses précédents investissements. Donc voilà, il faut au moins qu'on ait une compréhension. Et puis après, je crois que si être investisseur, c'est aussi être capable de prendre des risques. Et notamment quand on est entrepreneur-investisseur, il faut se donner la liberté de prendre des risques et d'ouvrir de nouveaux sujets où on n'a pas encore éprouvé les modèles économiques. Donc je suis d'accord avec toi, hein. Il y a beaucoup de sujets, je pense notamment à la tech, tout ce qui est lié à l'agriculture et aux nouvelles formes d'agriculture. Bon, c'est pas des sujets qu'on maîtrise aujourd'hui, pour autant c'est des sujets d'avenir qui vont avoir un impact positif très fort. Comment on repense la production plus locale, raisonnée. Ça c'est des sujets qu'on étudie typiquement, on regarde, on essaie de comprendre.
Alors du coup, j'enchaîne en te demandant, par exemple, il y a des entrepreneurs porteurs de projets qui nous écoutent. Là, comme ça, tu dirais que les grandes thématiques qui vous intéressent, c'est quoi à peu près ? On en a parlé un peu, mais ce serait bien de le rappeler, tu vois, de manière un peu didactique.
Bien sûr. Alors, dans le cadre de Founder Future Act, qui est vraiment cette initiative qu'on vient de lancer, il y a deux sujets. C'est comment faire reculer la pandémie du Covid-19 et comment améliorer
la vie des...
Exactement. Donc, okay. donc ça, c'est vraiment très cadré.
Ça concerne le premier. Voilà, c'est le million en question qui n'est pas encore complètement épuisé.
Exactement. Après, le nouveau fonds sur lequel on travaille, on va s'intéresser à quatre sujets qui sont pour nous quatre sujets vraiment d'avenir. J'en ai un peu parlé, c'est la transition alimentaire. Donc, premier sujet très très important, hein, qui est un sujet qu'on couvre déjà via oui. Founders Future. Oui. Tous les sujets autour de l'économie circulaire. Donc voilà, comment est-ce qu'on imagine des business qui consomment moins du réutilisable, etc. Un sujet sur la révolution du packaging, qui est aussi une des bien expertises sûr. De Founder Future, qui est aussi l'avenir. Hein. Comment est-ce qu'on va repenser dans notre consommation aujourd'hui l'emballage, le packaging, quel qu'il soit. Ça. Voilà. Donc ça c'est vraiment les sujets. Le dernier c'est la mobilité. On en a un peu parlé de façon très très large aujourd'hui dans les villes, sur les territoires, comment on repense la mobilité quelle qu'elle soit pour demain le grand public, pour du B2B, comment est-ce qu'on repense les systèmes de déplacement des produits des hommes, etc. Et comment est-ce qu'on le fait avec un impact positif. Donc ça, c'est vraiment quatre verticales sur lesquelles on va travailler dans les prochains mois. Donc si vous avez des projets, des initiatives, n'hésitez pas à me contacter en tout cas.
L'appel est lancé. D'ailleurs, je donnerai tes coordonnées. Peut-être peux-tu rappeler ton email à la fin. De toute façon, on n'a pas encore fini l'interview, mais je te redemanderai ton email à la fin de l'interview. Mais la mobilité, c'est très important parce que j'ai un peu l'impression que les gens vont avoir peur là dans les prochains mois de prendre les transports publics.
Il y a un vrai sujet déplacement et protection et
Tiens, alors ça, c'était une question que je posais au tout début du podcast et que je ne pose plus et c'est pas bien. Quelle est ta définition de l'impact positif ? Elle est très variable, cette définition. J'ai un peu l'impression que chacun a sa définition, mais c'est intéressant du coup.
Alors, pour moi, l'impact positif d'un projet, c'est le fait de répondre à un enjeu de société, social, sociétal, environnemental. Donc ça, c'est... pour moi, ça c'est très important. En tout cas, c'est la volonté de contribuer à un monde plus durable et plus responsable. Et puis après, l'impact positif, quand on va un peu plus dans le détail, c'est tout ce qui va limiter aussi les externalités négatives. Je pense que ça c'est important et c'est un peu le vrai gros sujet aujourd'hui. Pour toutes ces entreprises qui se lancent, l'impact positif, c'est d'être dans le contributif, mais aussi puisque dès lors que on consomme, on développe un projet, on s'adresse à des consommateurs, à du grand public, on a forcément un impact sur la planète qui peut être négatif. Donc, je pense que moi, je crois beaucoup. Je crois beaucoup au modèle d'entreprise régénérative. Ça, c'est très, très important, celles qui s'inscrivent.
C'est un beau terme. C'est un très beau, très bel adjectif. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de notre cher pays, la France, d'un point de vue complètement général ? C'est-à-dire, toi, indépendamment de ta profession, mais en tant que femme française, femme française ou française tout court, est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu ressens concernant la France ? Alors, tu vas me dire qu'il y a une belle énergie entrepreneuriale, ça, j'en doute pas. Tu as un point de vue, tu as envie de dire quelque chose ? Tu n'es pas obligée, d'ailleurs,
sûr.
De dire quelque chose. Mais,
si, c'est une... moi, je ressens beaucoup de fierté. Je trouve qu'on a un beau pays, avec toutes ses fragilités et ses limites. Mais je trouve que c'est toujours dans les moments de difficulté, de crise, que on regarde un peu l'existant, on regarde un peu où on vit, et on se dit que on est quand même dans une démocratie qui... peut présenter des limites, mais qui existe et qui est réelle. Quand on regarde chez nos voisins, c'est pas forcément le cas dans leur gestion de crise. Je trouve qu'on a quand même un pays de solidarité. Il faut le souligner. Alors même si aujourd'hui, beaucoup d'associations d'ONG souffrent du manque de financement. Il faudrait évidemment bien plus. Je crois qu'on a quand même un pays où les Français sont solidaires et créent tout un tas de solidarité, de liens sociaux. Là, on l'a vu avec la crise, c'est assez formidable. Donc, il y a assez peu de repli sur soi. Et je crois que ça, c'est la force de la France. Donc non, moi, je ressens beaucoup d'envie, de fierté. Après, il faut être toujours vigilant. On va traverser des moments, des périodes compliquées, dans une économie mondialisée. Il faut être vigilant sur l'avenir, en tout cas, et de pas se reposer sur ses acquis.
Bien sûr. Alors là, toujours pareil, je pose les mêmes questions, mais j'adore ça à mes invités, c'est coup de cœur et coup de gueule, ou coup de gueule et coup de cœur, récent. C'est-à-dire que le coup de cœur, ça peut être un livre, une série, une pièce de théâtre, un film, peu importe, une émission, un podcast, ou même un projet. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du portfolio de l'ensemble, mais peut-être que je rappellerai en introduction le portfolio déjà de votre équipe, en fait. Je reviens sur le coup de cœur, mais voilà, une sorte de... un coup de cœur récent et un coup de gueule, si tu en as un, parce que tu n'es pas obligé d'en avoir. Et puis, tu peux me dire, je n'ai ni coup de cœur et ni coup de gueule.
C'est si, j'en ai plein, mais il faut trouver le bon, c'est toujours comme ça, tu sais.
Tu n'as pas le temps de réfléchir, hein, tu sais, il n'y a pas de... Prendre le temps qu'il te faut.
Écoute, coup de cœur littéraire, parce qu'on a aussi besoin de la culture dans ces... ces moments. C'est le dernier livre de Leïla Slimani que j'ai adoré. Ça m'a.
Je l'ai pas encore lu.
Ça m'a fait voyager. Donc voilà, le pays des autres.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est sur sa famille, n'est-ce pas?
Exactement. C'est inspiré de son histoire. Et tu parlais de méritocratie. Je crois que c'est quand même un exemple assez incroyable de méritocratie. Voilà, quand on comprend un peu. Alors, je vais pas trop vous dévoiler son histoire, mais c'est l'histoire de ses grands-parents. Voilà, une famille. On parlait de diversité. Ses grands-parents, c'est un couple mixte dans un moment de libération du Maroc qui était un mouvement. Là, on parle de crise, mais l'indépendance du Maroc, ça a été aussi très très compliqué avec énormément de violence. Donc c'est un joli. C'est une jolie histoire d'être humain avec toutes les limites de l'humain, sans jamais porter aucun jugement que j'aime bien. Voilà, qu'elle pose un regard sur les hommes et les femmes que j'aime beaucoup. Donc ça, ce serait mon coup de cœur littéraire. Et puis mon coup de gueule, écoute, moi mon dernier coup de gueule, c'était en tout cas tous ces ces lobbies, notamment dans beaucoup d'industries traditionnelles qui veulent justement faire sauter tous les accords, et notamment les accords de Paris sur les émissions de CO2, et qui profitent de cette crise pour revenir dans l'ancien monde et ne pas se poser les bonnes questions et d'être toujours sur des logiques de rentabilité alors qu'on est à un moment quand même un peu historique. Voilà, et quand je vois qu'il y a d'autres pays qui arrivent à faire les choses, à imposer aussi certaines mesures en prenant en compte des critères, notamment environnementaux, je me dis que c'est pas normal. Voilà, ce serait mon dernier coup de gueule.
Non, mais tu fais bien de souligner, parce que c'est très important de souligner. Ouais. Écoute, Sarah, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. C'est passé vite, tu vois, ça fait plus de 50 ans qu'on est ensemble. Je te remercie mille fois d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux rappeler, avant qu'on clôture l'interview, est-ce que tu peux rappeler ton email ou pas? Ou je renvoie vers...
C'est très simple, c'est Sarah avec un H @foundersfuture.com.
Il y a un S à Founders.
Exactement.
Sarah, merci.
Un grand merci.
Bonne fin de confinement et belle route à toi et à toute votre équipe.
Merci beaucoup. À très bientôt. Un très bon moment. À bientôt.
Salut Sarah.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.